Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h48, merci d'écouter RTL. Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Fadela Amara, ancien secrétaire d'État à la ville et présidente d'honneur de Ni Pute Ni Soumise.
Bonjour Fadela Amara.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une jeune femme française peut devenir kamikaze?
Ah, c'est assez complexe. Mais en tout cas, ce que j'en déduirais, moi, dans ce profil-là, c'est qu'elle a intégré tous les outils d'oppression. C'est un peu ce qu'on a dénoncé à l'époque quand on a créé Ni Pute Ni Soumise. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez ce qui se passe dans les quartiers, on n'est pas dans un fonctionnement républicain. On est dans des fonctionnements où vous avez différentes formes d'oppression qui existent. D'abord la pression économique, évidemment, la pression sociale. Et puis il y a la pression religieuse dans sa radicalité. Et vous trouvez un moment donné où ces filles qui ne peuvent pas être respectées, exister en tant que femmes libres, se retrouvent à rentrer dans un processus dans lequel elles commencent à intégrer les outils.
C'est mais un peu justement, l'effet de syndrome, la France syndrome est le pays de l'émancipation de la femme qui veut être. Et on se disait souvent d'ailleurs, mais l'évolution des populations d'origine immigrée va se faire par les beurettes, par les femmes qui justement veulent cette émancipation. Comment on se retrouve là?
Oui, mais elle existe, cette émancipation. Elle existe, vous avez la majorité dans les quartiers, ce que j'appelle la majorité silencieuse, dans lesquels se sont engouffrées les filles qui ont milité pour plus d'émancipation, plus d'égalité, et qui ont aidé aussi d'ailleurs à la libération de certains garçons. Sauf qu'on se retrouve dans un phénomène aujourd'hui où, malheureusement, on a un effet inverse. Parce que absence de république dans nos quartiers. Depuis très longtemps, il y a des choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais quand vous avez, une forme de laxisme, une forme de non-exigence du respect des valeurs de la République, vous vous retrouvez dans ce type de situation.
Mais c'est dû à quoi?
C'est dû à
cette absence de république dans les quartiers.
À la lâcheté, souvent, à l'achat, ce qu'on a dénoncé il y a très longtemps, à l'achat de la paix sociale. On est en train de payer les conséquences de ce qui s'est passé il y a 10, 20, 30 ans.
Qui?
Et les hommes politiques, de gauche comme de droite, qui ont acheté la paix sociale en passant, par exemple, des accords avec les islamistes, pour des raisons électoralistes, en fermant les yeux, par exemple, sur toutes ces formes de particularisme, de revendication. Une des grandes avancées de notre pays, ça a été quand même la loi de 2004. La loi de 2004, elle a permis d'interdire des signes religieux dans les écoles, notamment le voile. Donc on a protégé les filles. Voilà. Eh ben, il a fallu quand même mener cette bataille en 2004, alors que tout le monde pensait que c'était acquis. Et puis après, quand vous regardez ce qui se passe dans les quartiers, on ferme les yeux sur la burqa. On ferme les yeux sur le voile, qui ne sont pas des signes religieux pour moi, mais qui sont...
Sont les politiques seulement, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi l'administration qui se dit, il ne faut surtout pas se montrer xénophobe, l'État doit être neutre?
Oui, parce qu'on a la peur d'avoir des mouvements, on a la peur que ça explose, etc. Et donc, du coup, on se dit, vaut mieux pas toucher ou dire ou réaffirmer des valeurs qui, normalement, sont le concept même du vivre ensemble, parce qu'on a peur que ça explose, parce qu'on a peur de stigmatiser, etc. Moi, je déteste le relativisme culturel. Je déteste ce discours victimaire, je déteste ce discours de l'excuse permanente. Moi, je trouve que si on respecte des gens comme moi, qui sont issus de l'immigration et qui se considèrent français, le meilleur moyen de me respecter, et ceux qui me ressemblent étrangement, c'est d'exiger d'eux qui respectent les valeurs de la République.
Mais vous avez eu l'impression...
Et la laïcité en particulier.
Quand vous étiez à la tête de Ni Pute Ni Soumise, que finalement, on vous regardait gentiment, vous trouvait sympa, mais comme par présentative de la population d'origine immigrée.
Ouais, c'est un peu paradoxal ça. C'est vrai qu'on était extrêmement soutenus.
Un peu les harkis de l'époque.
La manière dont on a traité les harkis, en pensant qu'effectivement le mouvement Ni Pute Ni Soumise et ce qu'on pouvait représenter, c'était que minoritaire, c'était pas la majorité, alors que c'est le contraire. Il y a une majorité silencieuse qui pense comme nous, qui s'inscrit justement dans cette démarche de citoyenneté avec des droits, des devoirs, avec une affirmation forte d'adhésion aux valeurs de la République. Et puis vous avez une autre minorité qui s'inscrit dans le relativisme culturel, des revendications permanentes sur des problèmes identitaires, sur des revendications de religieuses, etc. Et qui, eux, paradoxalement, sont visiblement beaucoup plus écoutés parce que les politiques pensent qu'avec eux, c'est mieux de discuter,
parce
de négocier.
Parce qu'ils sont plus radicaux, parce qu'ils sont plus agissants.
Plus radicaux, plus agissants, mais surtout, moi je pense que dans ce pays, il y a un gros problème. Il y a un sentiment de culpabilité qui est traîné par les histoires d'anciennes colonies, etc. Sauf que nous, on en est victime aujourd'hui. Moi, mon père, il était algérien, je suis né en France. Mon père et moi, on vit très bien ensemble. Il y a eu la guerre d'Algérie, tout ce que vous voulez, etc. C'est pas la peine de nous bassiner avec cette histoire-là. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs dans les mouvements, dernièrement, les manifestations, la marche pour la dignité, vous avez deux tendances dans les quartiers. Vous avez la tendance ni pute ni soumise, républicain, citoyen, laïque, respect de la République et de la loi, etc., et qui s'affirme comme féministe, l'égalité, etc. Et vous avez de l'autre côté ce courant de pensée qui est représenté par la marche de la dignité, dans laquelle vous avez un ensemble d'individus qui, en réalité, prônent systématiquement la haine de la France. C'est tout ce qui se passe dans les quartiers, c'est de la faute de la France, c'est de la faute de la République. Quand les attentats ont été excusés, par exemple, il faut quand même le savoir, ça. C'est quand même aberrant. Les attentats terroristes que nous venons de subir, qui ont ensanglanté notre pays, dans lequel on a été tous touchés, eh bien, il faut savoir que des personnes qui sont représentatives de cette marche ont déclaré que tout ça, c'est à cause de la France, parce que la France, elle traite encore comme une ancienne colonie les habitants des quartiers de notre pays, quand même, il faut le savoir.
On m'a dit que, d'ailleurs, dans la rue où étaient réfugiés ces terroristes, lundi à midi, au moment de la minute de silence, ceux qui respectaient la minute de silence ont été caillassés.
Où ça ?
À Saint-Denis.
C'est possible.
Ça, on ne le dit pas.
Oui, parce qu'il y a la peur de la stigmatisation. Moi, je ne crains pas, moi, tout ce que je n'ai pas entendu, on dit, attention, pas d'amalgame sur ce qui s'est passé. On s'en fout. Moi, je pense que notre pays, nos concitoyens, ont compris que tout le monde était touché. On est tous dans la même galère. Donc, ce n'est pas la peine de dire attention à l'amalgame, de dire mettre des bémols et tout. Non, moi, je pense qu'il faut être offensif, mais non. Je pense qu'il faut dire ensemble, on va y arriver. Je pense que le président de la République a raison quand il dit l'unité.
Mais pourquoi on n'entend pas suffisamment la communauté musulmane ? C'est le grand reproche qu'on entend.
Ah, moi, je vous invite à regarder les réseaux sociaux. Hier, j'étais en train de regarder ça. J'ai vu un truc extraordinaire et j'en suis contente. Parce que quand je vous parle de cette majorité silencieuse qui est prise en otage, qui pense comme nous, on aime ce pays, on est fiers d'être français
et on est laïque. On ne lui permet pas de s'exprimer ?
Eh bien, quand vous regardez les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez des vidéos hyper marrantes. Bon, il parle avec le langage de banlieue, hein, mais hyper marrantes, dans laquelle, allez, je vais dire un gros mot. Ils disent quoi en gros aux islamiques ? Fuck, pour être très clair. Voilà.
Ils parlent anglais.
Et ouais, entre autres. Mais le message, il est clair. C'est-à-dire qu'il leur dit à ces islamistes, il leur dit, mais vous pensez que nous, on est comme vous, etc. On vous déteste, foutez le camp. Vous n'êtes pas content de la France ?
Mais
ça
on
vous
les
pose
écoute
un problème,
pas.
Cassez-vous.
Mais
voilà.
Nous, on ne les écoute pas.
Et c'est ça le problème.
Les politiques ne les écoutent pas.
Je pense que... Non, honnêtement, je pense que ce qui s'est passé dernièrement, ça a totalement changé la donne. Et qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ce fameux vivre ensemble, dans le cadre de l'unité que réclame le président de la République, et il a bien raison, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est ensemble que nous allons tenir. C'est ensemble, en réalité, que nous allons mener la bataille. Mais à la seule et unique condition qu'on arrête de trouver des excuses et qu'on arrête de soutenir des courants de pensée qui sont conservateurs, rétrogrades. Et ça, j'en appelle aux politiques. Il faut bien beau de faire des déclarations à la télé, mais encore faut-il, sur le terrain, tenir la barre et dire tout le monde est traité à égalité à la condition que tout le monde s'inscrit dans le respect du cadre de la loi républicaine.
Merci Fadela Amara.
Merci.
On a acheté la paix sociale dans les quartiers en lâchant les valeurs de la République. Arrêtons de nous bassiner avec la culpabilité et la colonisation. Il faut être offensif pour défendre les valeurs de la République, vient de nous dire Fadela Amara, ancienne présidente d'honneur de Ni Pute Ni Soumise. Merci à vous deux. L'entretien est bien entendu à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.